Chers frères et sœurs, dans la joie, l'action de grâce et dans un engagement renouvelé, l'Église universelle célèbre aujourd'hui la 25e journée mondiale du malade. Une journée instituée par Saint Jean-Paul II en 1992 et célébrée pour la première fois ici à Lourdes le 11 février 1993. Pouvoir célébrer la 25e anniversaire de cette journée à Lourdes, c'est une grâce. C'est se souvenir des nombreux malades qui viennent en pèlerinage à la grotte de Massabielle pour chanter les louanges de celles qui toutes les générations proclament bienheureuses. Célébrer la journée du malade à Lourdes, c'est aussi remercier le Seigneur pour toutes les personnes, chrétiens, croyants d'autres religions et non croyants, qui viennent en ce lieu béni afin de trouver soulagement et espérance. Célébrer la journée mondiale du malade ici à Lourdes, c'est penser à tous ceux qui bénéficient de la tendresse de Dieu par les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Et comme le souligne le pape François dans son message pour cette célébration, cette journée constitue une occasion d'attention spéciale à la condition des malades et plus généralement de ceux qui souffrent. Et c'est aussi l'occasion, continue le pape, pour exprimer ma proximité dans la prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toute personne consacrée, engagée au service des malades et des indigents, aux institutions ecclésiales et civiles qui ouvrent dans ce domaine, et aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. À tous, je souhaite d'être toujours des signes joyeux de la présence et de l'amour de Dieu, en imitant les témoignages lumineux de tant d'amis de Dieu, parmi lesquels je rappelle Saint Jean de Dieu et Saint Camille de Lellis, patron des hôpitaux et du personnel de santé, et Sainte Mère Thérèse de Calcutta, missionnaire de la tendresse de Dieu. Le pape nous invite aussi à l'émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit, en redisant avec la Vierge Marie, « Le Puissant fit pour moi de grandes choses ». La parole de Dieu que nous venons d'entendre nous y aide. C'est une parole qui nous rappelle à dilater notre cœur, en gagnant nos combats personnels contre les nombreuses peurs que les temps de la maladie, les temps de la souffrance et la pensée même de la mort provoquent en chacun de nous. Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros. Il ne nous demande pas non plus de renier ce que nous sommes en train de vivre avec difficulté, en portant peut-être le masque de celui ou de celle qui est supérieur à tout ce qui l'humilie ou les limite. Dieu nous demande de lui donner crédit et de lui faire confiance. Il nous appelle à ne pas avoir peur, parce qu'il vient, parce qu'il se fait proche, parce qu'il ne nous oublie pas, parce que nous sommes importants pour lui, parce que nous sommes ceux avec qui il veut partager sa propre vie. N'aie pas peur, parce que je suis avec toi. N'ayez pas peur, parce que je suis avec vous. Face à cette prise de responsabilité que que Dieu en Jésus son Fils assume librement vis-à-vis de chacun et de tous. Les croyants sont ceux qui répondent « Nous voici, nous sommes avec toi ». C'est ce dialogue qui empêche au Père de trouver un terrain fertile dans nos fragilités. C'est ce dialogue qui empêche la fragilité elle-même de devenir l'obstacle principal par rapport à Dieu et par rapport aux autres. C'est ce dialogue que ici et maintenant, la Mère Immaculée nous pousse à accueillir, à désirer, à chercher et à construire, l'ayant elle-même expérimenté et l'ayant elle-même reconnu et mis au fondement de sa vocation dans l'Église et dans le monde. N'aie pas peur, Marie, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Mais voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. On pourrait cependant objecter que le « mais voici » de l'Immaculée n'a pas lieu au temps de la maladie, au temps de la souffrance, au temps de la fragilité, au temps de la mort. Aucune de ces expériences ne semble être présente au moment de l'Annonciation. En réalité, il n'est pas vraiment ainsi. Luc est très précis quand il nous dit que le dialogue du « mais voici » entre Dieu et Marie arrive et prend forme au milieu de multiples expériences problématiques. La première concerne la famille dans laquelle, par le mariage, la jeune épouse va entrer pour en faire partie. C'est la famille royale, la famille de David. Dans les récits bibliques, surtout chez les prophètes, c'est la famille qui a conduit Israël à la division et à la ruine, pour avoir choisi les idoles au lieu du vrai Dieu. C'est la famille où ne résonnent plus les « mais voici » réciproques qui avaient guidé la vie du roi David. C'est la famille qui a conduit Israël à disparaître de la carte géographique. C'est dans cette famille que Marie, déracinée de sa famille d'origine, est obligée d'entrer selon les règles et les coutumes de l'époque. En entrant dans la famille de David, l'épouse de Joseph vit un profond moment de dépouillement. Elle est appelée à tout laisser pour faire l'expérience de la pauvreté et de l'exclusion que l'histoire réserve à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et pour les raisons les plus variées, se sont perdus, perdant en même temps l'estime, l'appréciation et la bienveillance de toute la communauté. N'est-ce pas là, chers frères et sœurs, la même expérience que l'on fait au temps de la maladie, au temps de la souffrance, au temps de la fragilité, au temps de la mort? Entrant dans ce temple-là, combien se sont retrouvés subitement dépouillés, privés de leur habitude quotidienne? Combien ont été, ils se sont sentis obligés d'entrer dans une pauvreté radicale, davantage habitée par les ténèbres que par la lumière? Combien se sont subitement sentis devenir un poids pour soi et pour les autres? Combien se sont sentis ou ont été transformés en objets, numéros, protocoles? L'évangéliste Luc nous rappelle ensuite que devoir entrer dans la famille de David a conduit Marie non pas à Jérusalem, le centre de la vie et de la foi d'Israël, mais à sa périphérie, ce qu'on appelle la Galilée des nations, un territoire synonyme de mort du fait qu'il est loin, loin de ce qui donne l'identité, loin de ce qui donne la sécurité, loin de ceux qui voudraient être proches, loin de ce temple même qui était le cœur de l'expérience religieuse d'Israël. Cet éloignement a aussi beaucoup à dire sur le temps de la maladie, sur les temps de la souffrance, sur les temps de la fragilité, sur les temps même de la mort. Tous ces temps, en effet, sont des temps de multiples éloignements. Chers sœurs et frères, si aujourd'hui, ici et maintenant, la Mère Immaculée nous pousse à accueillir, à désirer, à chercher, à construire les dialogues du « Mais voici », les dialogues qui rendent croyants, elle les fait non comme une privilégiée, mais comme une pauvre. Comme pauvre avec les pauvres, qui sait bien ce que veut dire tout ce qui tourne autour du temple de la maladie, du temple de la souffrance, du temple de la fragilité, du temple de la mort, parce qu'elle l'a vécu en premier. Comme pauvre avec les pauvres, la Mère Immaculée nous pousse à accueillir, à désirer, à chercher et à construire les dialogues du « Mais voici », parce que dans ces dialogues, on peut être revêtu de gloire, revêtu de lumière. Se revêtir de lumière et de gloire, comme l'annonce le prophète Isaïe dans la première lecture, devient réalité quand, selon les paroles de l'apôtre Paul, nous revêtons le Christ, puisqu'il est la lumière éternelle qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. C'est lui le Fils bien-aimé dans lequel le Père manifeste sa gloire. C'est lui le Saint de Dieu qui ouvre la porte de la joie, de l'amour, du repas éternel à tous, sans distinction de langue, de peuple, de culture, de couleur de peau. Nous revêtons le Christ quand, avec lui, nous affrontons les temps de la maladie, les temps de la souffrance, les temps de la fragilité, les temps de la mort, en tant que vivant, comme lui-même était vivant à l'ère de la croix. Le Christ nous dit que c'est le « Mais voici » de Dieu qui nous rend vivants. Et c'est notre « Mais voici » à Dieu qui nous rend vivants. Ce n'est pas par hasard, alors, que l'Évangile que nous avons entendu, le récit des noces de Cana de Galilée, nous a comme projeté sous la croix. C'est un passage voulu par le Christ lui-même, quand, dans les dialogues avec sa mère, il a parlé de son ère. C'est un passage que le Christ nous demande aussi de faire. Nous sommes en effet dans une situation semblable à celle de la famille qui, à Cana de Galilée, n'avait plus de vin. Là, la joie des noces pouvait à l'improviste se transformer en douleur, en déshonneur et en pauvreté. Ici, pour beaucoup d'entre nous, le temps de la normalité de la vie s'est à l'improviste transformé en temps de la maladie, en temps de la souffrance, en temps de la fragilité, en temps de la mort. Le Christ nous appelle à passer d'ici à son ère. Il ne nous demande pas d'échanger de temps. Il nous demande de vivre cet temps éclairé par son ère. Il nous demande de faire entrer son ère dans cet temps. Il désire partager avec nous ce qui a fait de son ère une expérience de vie et non pas de mort. Le « Mais voici » de Dieu à lui, son « Mais voici » à Dieu. Dans ce passage de Cana de Galilée à l'ère de Jésus, la femme immaculée est présente. C'est elle la première à l'avoir fait à ce moment-là. Elle nous demande d'être vivants. Elle nous pousse à être vivants. Dans la seconde lecture, l'apôtre Jean nous prévient. Celui qui est mort ne peut pas voir les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Seul celui qui est vivant peut les voir. Choisissons donc d'être vivants, que chaque âge de notre vie laisse résonner l'annonce de Dieu. N'aie pas peur, je suis avec toi. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Que chaque âge de notre vie laisse résonner notre « mais voici » en union au « mais voici » du Christ et de manière toujours plus fervente à celui de la Mère Immaculée. « Mais voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Amen.